Question de nuit, je reçois Fidagoun. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien du Sauveur FM, vous publiez votre deuxième roman, Quelle nuit sommes-nous, aux éditions Farago. Vous avez été fidèle à votre premier éditeur, on va rappeler un petit peu qui vous êtes, mais vous avez été aussi, et vous êtes prix Fénéon pour votre premier livre, prix Fénéon de la littérature. Alors je ne connaissais pas du tout ce prix, je suis allé voir, je suis allé me renseigner, et finalement c'est un prix que déjà beaucoup de beau monde a eu.
Oui.
Beaucoup de grande littérature aujourd'hui. Et qui était Fénéon alors ?
Mais en fait, c'est un chroniqueur d'art, un grand collectionneur, amateur d'art, surtout un résistant aussi.
Oui.
Et dans sa prime jeunesse, un peu anarchiste. Et c'était vraiment un grand monsieur, donc je suis très très fier d'avoir ce prix, qui est un peu confidentiel, mais en même temps qui a toujours le bon nez pour repérer des écritures.
Ouais. Et il y a une condition, il faut être jeune.
Moins de 37 ans.
Moins de 37 ans,
oui, oui.
C'est précis, sinon ça passe pas.
Oui.
Donc vous publiez, mais c'était pour votre premier roman, donc.
Oui, pour Les Avenirs.
Qui était publié il y a un peu plus d'un an. Là, vous publiez votre. Alors c'est pas vraiment un roman, hein, c'est un récit.
Oui.
Hein, qui se passe en combien de nuits ?
Je sais pas, en
fait. C'est difficile à compter, j'ai essayé de les compter. Il y en a moins de 1001.
Ouais, non, c'est un livre que j'ai écrit vraiment la nuit et qui a été empreint de nuit, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce titre.
Ouais.
Et je l'ai écrit justement à Venise, il y a 4 ans quand le texte m'est venu, et je l'ai retravaillé à la sortie des Avenirs.
Mm-hmm.
Donc je voulais raconter ce destin un peu fulgurant d'un jeune homme qui fait une fugue à 15 ans et qui revient jamais chez lui.
Oui. D'ailleurs, les deux histoires se croisent hein, dans votre récit.
Oui, oui.
Alors, une île à Venise, c'est quoi comme style d'île ?
En fait, c'était un ancien hôpital désaffecté. Donc, je m'occupais de garder cette île avec une jeune femme qui était sculpteuse. Donc, son travail de sculpture était très solitaire et mon travail d'écriture aussi. Donc, j'ai voulu retranscrire ça un peu dans un roman.
Donc, c'est une vraie histoire qui vous est arrivée.
J'ai eu cette expérience, sauf que moi, j'ai tout changé. Mais j'ai vraiment vécu cette expérience de vivre sur une île à Venise. Et c'est très particulier.
C'était où à Venise ?
Derrière la Giudecca. Entre San Clemente et la Giudecca.
D'accord, mais il y a beaucoup d'îles ou c'est...
Il y a beaucoup de petites îles comme ça, oui.
Ouais. Vous aviez été recruté par petites annonces ?
C'est un ami qui m'a téléphoné, vraiment comme Samuel Tristan dans le roman.
Mm-hmm.
Ouais, donc j'ai pas hésité parce que c'est... Pour quelqu'un qui écrit, c'est vraiment une aventure à vivre.
Ça fait très gardien de phare finalement, les gens qui vont pas, qui partent, qui gardent une île.
Ah
hein.
oui.
Bon, sauf que c'est une île qui est déserte, mais pas tout à fait.
Ouais. Il y a cette vie à deux à construire et en même temps comme c'était deux artistes donc on n'a pas empiété l'un sur l'autre mais c'est surtout avec soi-même en fait qu'on se retrouve confronté.
Ouais. Vous êtes resté combien de temps sur l'île ?
Moi je suis resté 3 mois et mon personnage par contre je le fais rester plus longtemps.
Ouais. Déjà 3 mois c'est long hein.
Ah oui.
Il y avait la télé, il y avait la radio.
Oui, il y avait tout ce qu'il faut. Moi j'étais parti en fait pour travailler mon premier roman Les Avenirs.
Ouais.
Et je ne pensais pas du tout qu'un deuxième texte allait naître de cette expérience.
Mmh. Mmh. Donc vous saviez déjà que vous alliez profiter de votre expérience sur l'île pour aller écrire un livre.
Voilà,
ouais.
pour continuer Les Avenirs
ouais.
que j'étais en train de finir.
Qu'est-ce que ça fait d'être sur une île déserte ? Parce qu'on fantasme beaucoup là-dessus.
Oui, en plus un de mes premiers livres c'était Robinson Crusoe quand j'étais enfant.
Après la case de l'oncle Tom.
Voilà, exactement. Ouais. La case de l'oncle Tom c'était le premier.
Vous avez fait les classiques quoi.
Ah oui,
manque plus que sans famille.
Voilà, moi c'est venu après. Non, il fallait bien un début, mais c'est vraiment une expérience à vivre en tant qu'auteur de se retrouver face à ses espoirs, ses peurs et savoir un peu qui on est et ce qu'on a dans le ventre.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre valise ?
Que des livres. Moi j'avais, pendant très longtemps, j'ai eu que mes habits et mes livres avec moi, puisque mon métier c'était d'écrire déjà. Et Samuel Tristan, c'est la même chose.
Mmh. Sauf qu'en plus, lui, il a deux tapis. Hein.
Voilà. C'est un peu le symbole de la maison.
Ouais. Et vous avez vos deux tapis dans votre valise également ?
Non, moi ça va. C'est mes livres.
Alors, sur cette île, il y a un hôpital désaffecté et il y a un asile.
En face, oui.
Ouais.
Un hôpital très connu que Depardon a filmé. Il a fait un documentaire très 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 bien sur San Clemente. Et j'ai eu la chance de visiter cet asile vide. Ça faisait 10 ans qu'il était vide. Et aujourd'hui, c'est devenu un hôtel de luxe. Ils ont racheté l'espace. C'est complètement.
C'est glauque.
Ah oui.
Ah c'est super glauque. Il doit y avoir de mauvaises ondes.
Ah bah non. Surtout que moi j'ai visité les murs vides avec des traces de griffures encore sur les murs, des choses hallucinantes. Ah, et j'étais en train de travailler les avenirs. Donc ça a donné une espèce d'épaisseur à mon texte en plus.
On peut tourner Shining à mon avis dans ce,
ah oui, tout à fait.
Dans ce genre de.
Ah oui.
D'où vient votre fascination pour les asiles vides et désertes?
Là, San Clemente, c'était un hasard, puisque moi, j'ai accepté l'offre de ce travail et il se trouvait que c'était en face de San Clemente, alors que j'étais moi-même en train de travailler un récit donc qui se passe dans un asile imaginaire, Luz. Et donc, je sais pas, je pourrais pas dire, c'est peut-être l'espace qui se prête à la poésie et à la solitude, et qui ouvre beaucoup de champs imaginaires et l'inspiration vient. Donc le deuxième roman, je pensais pas du tout faire un deuxième roman qui allait se passer sur une île, parce que je vous dis, c'est en travaillant les avenirs que Quelle nuit sommes-nous est venu, et j'étais en train de vivre cette expérience, donc c'est une espèce de fatalité, on va dire. Ouais.
Mais vous qui êtes déjà un solitaire dans la vie, vous qui vivez déjà dans votre propre monde, qu'est-ce que ça vous a fait en plus d'être vraiment non seulement être solitaire avec vous-même, mais solitaire sur une île? Est-ce que ça rajoutait à votre solitude ou pas?
Je pense que c'est une espèce de rite initiatique pour aller au fond de soi-même et dépasser ça. Parce que moi, au sortir de cette expérience, je me sens beaucoup plus équilibré, moins solitaire qu'avant. Je vis en plein Paris, j'ai une vie très normale, je passe mon temps à regarder le
ça
câble.
Va 5 minutes, ça va 5 minutes la solitude.
Voilà, je pense que c'est formateur par contre. C'est important, entre l'âge de 20 ans et 30 ans, de vraiment savoir qui on est pour faire de sa vie vraiment quelque chose d'intéressant.
Vous dites qu'on passe sa vie à se chercher, mais oui. À quel âge on se trouve?
Le plus tard possible pour que la vie soit intéressante. Surtout, je pense qu'on a tellement de choses qui sont liées à l'éducation et aux traditions à alléger pour vraiment devenir soi-même. Et ce travail que moi j'ai fait par rapport à l'écriture et à la littérature, ça a été nécessaire pour devenir quelqu'un, comme dit Nietzsche, deviens ce que tu es. Pour devenir ce qu'on est, il faut du travail, il faut de la solitude, il faut de la lecture. Il faut pas simplement subir son monde extérieur, sa condition, ses origines. Il faut un dépassement. Et ce dépassement-là, moi je le continue et je pense que je le ferai toute ma vie. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Henry Miller. Jusqu'à l'âge de 80 ans, c'était quelqu'un qui se découvrait, qui découvrait la vie. Et pour moi, c'est un modèle, puisque ça permet à donner à la vie toujours cet intérêt de découverte.
Votre site internet renvoie sur le sien, sauf que c'est en anglais. Hein.
Oui, mais ça demande des efforts.
Voilà, c'est comme tout finalement.
Non, en fait, le meilleur site sur Henry Miller était en anglais, donc il y en a d'autres, hein, mais le plus important, c'était celui-ci.
Sur Beurre FM, question de tout, avec Philippe Robichon.
Question de nuit, je reçois ce matin à Philagoun. Vous publiez votre deuxième récit, s'appelle « Quelle nuit sommes-nous ?» aux éditions Farago. C'est un éditeur intéressant, peu connu encore.
Oui, il est jeune et il a créé, Jean-Pierre Boyer, mon éditeur, a créé sa maison en 99. Et il est très reconnu par les critiques et les libraires, mais encore très peu du grand public. Mais bon, ça, au fil du temps, ça change.
Un artisan, on va dire.
Un vrai éditeur.
Voilà, un vrai éditeur. Les autres sont des vrais éditeurs, mais
il y a un aspect commercial.
Ils font du business aussi.
Voilà.
Aujourd'hui, ils font du marketing. Ils font des coups, comme on dit. Vous êtes un écrivain cosmopolite aux origines multiples, ça vous va?
Oh oui, très bien.
En parlant de vos origines, bon, vous êtes né à Saint-Étienne, où vous êtes déjà d'origine stéphanoise, de famille ouvrière, donc origine ouvrière, d'un père kabyle.
Oui, kabyle et espagnol.
C'est-à-dire kabyle et espagnol?
On a tous deux parents.
Ouais.
Donc son père est kabyle et sa mère espagnole.
D'accord. Et votre mère, donc berbère marocaine?
Et juive marocaine.
D'accord.
Pareil. En fait, j'ai quatre grands-parents qui ont des origines différentes.
Ouais.
Ouais. C'est pour ça que je préfère résumer par.
Cosmopolite.
Un mot que j'ai toujours aimé, même quand j'étais enfant, je le connaissais déjà, je pense.
C'était quoi?
Ça donnait une envergure plus large au monde. Je pensais vraiment déjà que le monde était grand et puis je le sentais en moi puisque j'avais plusieurs origines. Donc ça donne un goût de la liberté plus accru.
Et vous, quand on mélange vos origines, ça fait qu'est-ce que ça fait?
Ça fait moi.
Ça vous rend fort?
Je pense que les métissages nous rendent forts à partir du moment où on sait d'où on vient et que ça permet d'éviter les communautarismes aussi. Ça permet de se sentir concerné par beaucoup de choses. Moi, je me sens concerné par tout ce qui arrive par tout le monde. Je me sens pas seulement concerné par ce qui se passe à Paris ou en France ou chez les chrétiens ou chez les musulmans ou quoi que ce soit. C'est que ce soit une synagogue, un temple, une mosquée ou une église, je me sens concerné. Et ça, c'est naturel chez moi. Je pense que ça devrait être naturel pour tout le monde. Mais moi, ça l'est encore plus parce que j'ai des origines différentes.
Vous êtes en lutte parfois avec ces diverses origines ?
Jamais. J'ai jamais connu de conflit d'identité ou quoi que ce soit.
Il n'y a aucun camp a essayé de vous rattraper ?
J'ai eu peur de ça en publiant mon premier livre. Je me suis dit, bon, tu vas devenir quelqu'un de public, ton nom va apparaître, il y aura des articles, des choses comme ça. Et en fait, non, on a tout de suite compris que ce qui m'intéressait, c'était la littérature. Et que ce qui avait fondé mon identité, c'était la langue. C'est pour ça que j'en parle dans Les Avenirs, mon premier roman. Mmh. Parce que c'est vraiment fondateur.
Vous avez commencé à écrire par le dessin ?
Oui.
Ouais.
Ouais, j'ai commencé à m'exprimer par le dessin et ça a été une espèce de libération et j'ai tout de suite senti que l'art en général c'était important dans ma vie. Mmh. C'est pour ça que dans mes romans dans mes récits, il y a toujours soit la sculpture, la musique, la peinture.
Je dis, vous avez raison, à partir de deux, ça fait des. Hein.
Ah oui.
Donc, vous pouvez dire dans mes romans.
C'est vrai.
Il y a toujours des artistes, on parle toujours un petit peu d'art. Vous avez écrit aussi de la poésie.
Oui, pendant longtemps. C'était plutôt, pas dans le souci d'être publié, mais plus pour, comme un musicien ferait ses gammes, pour apprendre à chercher le style, la voix, les harmonies dans le texte, les phrases. Mmh. Et c'est peut-être ça qui a fondé ma façon d'écrire. C'est 10 années de recherche dans son coin.
Ouais. Mais aujourd'hui, quelle est la part du style dans ce que vous écrivez ?
Je sais pas. Moi, je sais que j'écris de façon très instinctive et naturelle. Et le travail que je fais, c'est un travail d'écoute. C'est-à-dire que je me relis à voix haute et je cherche l'harmonie dans les paragraphes, dans le texte. Et c'est une grande part de. En fait, il y a une grande part d'oralité dans mon écriture. Mmh. Et le style, après, je sais pas ce que c'est le style, en fait.
Alors, si on parle pas de style, on peut parler de technique, alors.
Bah, ma façon d'écrire, c'est vraiment lié à.
Parce qu'il y a une technique. Enfin, en tout cas, quand je dis votre livre, il y a vraiment un style.
Mmh. Oui, il y a une voix. Il y a une voix. Que je cherche quand j'écris, et cette voix-là, elle sort par le Samuel Tristan, par exemple, il a sa propre voix. L'histoire de Samuel Tristan, c'est aussi quelqu'un de c'est quelqu'un de très proche de moi, et son histoire est empreinte de jazz, parce que dans la façon que j'ai eu d'écrire ce livre, en fait, j'ai écouté beaucoup de jazz. Et le texte s'en ressent, moi je le vois, et puis il y a beaucoup de lecteurs qui le ressentent. C'est un texte qui est très dense, il est court, mais il y a une espèce de note bleue comme ça pendant tout le récit. Et c'est un récit que j'ai écrit la nuit en écoutant du jazz.
Écoutant Coltrane.
Voilà, j'ai envie que l'écriture soit vivante. J'ai pas envie que ce soit. Moi je fais pas de plan quand j'écris, je pars vraiment à l'aventure. J'ai envie que mes personnages.
Ce n'est pas le complexe de dire finalement je vais faire court, donc les gens vont dire il a pas travaillé.
Non, c'est un texte très travaillé.
Aujourd'hui, on vend des romans en poids aussi.
Oui, il y a les deux extrêmes, les romans courts et les romans les pavés. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment l'écriture. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que en une page, il y a une richesse.
Et que c'est du concentré, finalement.
Voilà.
Et vous assumez finalement le.
Oui, parce que comme je viens de la poésie. Quand je lis Baudelaire, en une phrase, il y a tout un monde.